Popcorn Reborn a 10 ans. C'est une association qui organise des soirées rétrospectives autour de films emblématiques de la culture populaire des années 80-90. Et pour fêter cet anniversaire, Popcorn Reborn vous propose une programmation spéciale au sein de son Summer Festival avec la projection de 6 films en version restaurée. Entretien avec Guillaume Méral, président de l'association, journaliste ciné, scénariste et passionné de cinéma à ce sujet.
Il était une fois, dans une galaxie lointaine, pas si lointaine, c'était tout simplement l'idée de deux potes en face, qui avaient le désir très égoïste de voir sur grand écran les films qu'on avait poncé en VHS, en DVD, à la télé, bref, chez nous. Parce que nous, en fait, ma génération, les millennials, en fait, on a une culture de vidéoclub, on a une culture de VHS, on a une culture du cinéma qui s'est forgée sur nos petits écrans de télévision domestique. Et on a aussi également, parallèlement, on cultive en fait cet amour de la salle de cinéma et l'expérience de la salle obscure. Donc on a voulu trouver tout simplement un moyen de concilier deux en se disant que si ça nous faisait kiffer nous, ça ferait kiffer d'autres personnes quoi. Et donc là c'était moi et Giovanni, Adrien s'est ensuite joint à l'initiative. Quelques mois plus tard, Maud et Benjamin nous ont rejoint et puis voilà quoi, ça c'est le noyau dur de Popcorn. En fait le cercle originel Popcorn est celui-là.
Alors, souvenir, ce sera ma seule question piège promis de l'interview.
Même pas peur.
Tu devais me donner ton meilleur souvenir.
It de Michael Mann avec Al Pacino et Robert De Niro. Souvenir personnel. Si je devais souvenir mon expérience de grand écran, d'un film que je connais par cœur, dont j'ai poncé chaque image pendant un nombre incalculable d'années, si je devais saisir ça, ça serait It. Parce que là, j'ai eu une expérience quasiment religieuse du truc. Il s'agit de mon film préféré et tout. Maintenant, si je devais te donner des souvenirs de Popcorn qui soient plus larges que moi, plus grands que moi et compagnie, qui impliquent les membres de l'asso, le public, etc. et tout, en vrai, j'en aurais tellement à te donner. Quoi. Je pourrais te parler de la DeLorean qui est venue pour le premier Retour vers le futur grâce à un de nos habitués s'appelant Eric Dacosta. Je pourrais te parler des gens qui reprenaient toutes les chansons de Dirty Dancing en salle en mode karaoké pendant la séance du film. Je pourrais te parler de la séance de The Big Lebowski où tu as des gens qui sont venus en peignoir comme Jeff Bridges dans le film. Je pourrais parler de séances d'Halloween, machin, la séance de Bloodsport avec Jess Lyoda qui est passé pour parler du film. Merci Jess. Là, on a eu City on Fire avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Pascal Grosso, en fait, qui est venu parler de son expérience de Hong Kong, du cinéma hongkongais. Enfin, tu vois, il y en a plein. En vrai, il y en a plein. J'aurais tellement du mal en saison que j'aurais envie de te dire que c'est plus pour moi un ensemble, une mosaïque de souvenirs qui forme un ensemble qui me tient à cœur, en fait. Voilà.
Bon, bah ça va, c'était pas une question si piégeuse que ça.
Pas du tout.
Alors, je parlais de films restaurés en version numérique. Ce sont des films qui sont projetés en DCP. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est ?
DCP, c'est tout simplement du matériel numérique. C'est une grosse clé USB. Voilà, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est un disque dur. Les films sont numérisés dessus et ensuite on les branche à un serveur qui nous permet de les passer sur grand écran. Parfois, il s'agit d'un disque dur physique, parfois c'est du dématérialisé, de plus en plus souvent d'ailleurs. Et en fait, nous, c'est comme ça qu'on passe la totalité de nos films. Sachant que on aimerait bien un jour faire l'expérience d'une bobine 35 mm, rien que pour le kiff. Mais bon, il y a des contraintes logistiques qui sont un peu plus lourdes à faire venir du 35. Donc voilà.
Et est-ce que ça veut dire qu'en version numérisée, justement, le film est retravaillé au niveau des couleurs, au niveau du grain ou pas du tout ?
La plupart du temps, oui. La plupart du temps, les mecs ne se contentent pas de transférer le film du 35 sur le DCP, sur le support numérique. Il y a effectivement un travail de remasterisation visuelle, sonore qui est effectué pour donner une seconde jeunesse au film, en fait, et puis pour justifier aussi, pour motiver les gens à venir le revoir pour dire « Regardez, ici, il y a le film comme vous ne l'avez jamais vu, en fait. » Et effectivement, c'est assez génial en termes de cinéphilie parce que tu sais, on a toujours tendance à voir, tu sais, quand tu parles des vieux films des années 50-60, films en couleur ou même après compagnie, on a tous, tu sais, une vision esthétique du truc, tu sais, un truc de musée, tu sais, où t'as la pièce des années 50, t'as la pièce des années 60, t'as la pièce des années 70, et t'as l'impression que tous les films sont enfermés en fait, dans cette espèce d'enclos visuel, esthétique, dans lequel inconsciemment on le met. Mais quand tu vois des films, en fait, en version remasterisée, bah, ça enlève ce côté muséal, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça enlève cette vitre, cette espèce de miroir sans teint qui peut y avoir entre les gens et ces films de patrimoine, en fait, qui ressortent en salle. Et alors, c'est moins le cas sur les films que nous, on projette, parce que années 80, 90, on reconnaît plus facilement, en fait, parce que c'est nos codes. Mais dis-toi que les gamins de 15 ans, de 25 ans et compagnie qui ne sont pas nés avec ça, eux cultivent peut-être le même rapport à ces films-là que nous, quoi, tu vois. Donc, à ce niveau-là, les remasterisations numériques, etc. et tout, bah, c'est hyper important, quoi.
Alors, le Popcorn Reborn Summer Festival, il avait été créé il y a 5 ans, donc post-Covid, ouais. Il a été créé aussi pour recréer un moment convivial, justement, pour se retrouver à nouveau, j'allais dire, dans l'espace public, mais au cinéma, quoi, dans les salles de cinéma.
Oui, complètement. Alors, je pense que ça a été une cumulation de plusieurs facteurs. Déjà, nous, on sortait du confinement, donc ça faisait 3 mois qu'on n'avait rien fait. On avait croc, quoi. On avait la dalle, on voulait faire un truc, faire un truc big, et donc on s'est dit vas-y bam, un festival qui plus est, il n'y avait rien qui passait dans le cinéma à ce moment-là, parce que les distributeurs avaient peur de sortir leur film, et pour cause, les gens voulaient sortir, ils voulaient pas s'enfermer à l'intérieur, du coup c'était le désert des tartares, littéralement pendant 2 mois, 3 mois, voire plus dans les salles de ciné, et du coup nous on s'est dit, on a un boulevard, on a un créneau, il n'y a rien qui se passe, faut créer un événement, en fait, pour faire vivre un peu le cinéoche, en fait, et montrer que le truc est toujours là, et montrer que les gens veulent toujours y aller, qu'ils veulent toujours revenir quand il y a quelque chose qui les motive à venir, quoi. Et du coup, on s'est lancé là-dedans avec le Popcorn Summer Festival parce que l'occasion a fait le larron, et parce que je pense qu'à ce moment-là, ce que nous on proposait a fait du bien quand même à notre modeste échelle, s'entend, hein, on n'est pas non plus dans un mode héroïque à l'échelle nationale, mais tu vois, a fait du bien au cinéma parce que ça a permis de faire vivre le truc à un moment où il n'y avait rien qui le faisait vivre, en fait.
Oui, puis avec une programmation différente de ce à quoi on avait tous pris goût, finalement, à aller voir sur les plateformes des séries à n'en plus finir.
C'est ça, et ça c'est toujours notre défi depuis le premier jour, et ça le sera jusqu'au dernier, si tant est qu'il y en a un dernier, je n'espère pas, mais c'est de dire aux gens, je sais, le film, vous l'avez déjà vu, je sais, vous pouvez l'avoir chez vous, sur Netflix, tranquille, la bière au frigo, les toilettes à côté, mettre sur pause quand vous voulez, je le sais, DVD, VHS, je le sais, venez au Cinoche, c'est pas pareil, et vous le saurez quand vous le verrez, et c'est pas juste... Nous, en fait, à Popcorn, qui sont des nerds de ciné, en fait, qui le disent, ce sont les gens, en fait, qui nous suivent depuis le début, qui viennent voir le film, qui pensent et ressentent la même chose que nous. Tu vas le voir, tout ce que tu connais par cœur au ciné, c'est pas pareil. Tu le redécouvres, tu prends tes émotions, sont multipliées par 10, des détails, tu ne les voyais pas, le rythme n'est pas le même, et ce que tu aimais déjà avant, tu l'aimes encore plus, quoi.
C'est comme ça que j'aurais dû te présenter, en fait, nerd de ciné.
Ouais, écoute, j'accepte.
Alors, justement, tu m'as déjà cité beaucoup de films, là. On vient à peine de commencer l'interview. On va parler après de la programmation du Popcorn Summer Festival qui va commencer. Un peu spécial, d'ailleurs, pour ces 10 ans. Mais je voulais savoir comment vous décidez sur la programmation, parce qu'il y a des films à foison à montrer.
Alors, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont disponibles.
Okay.
Donc déjà, ça, c'est le premier tri. Ensuite, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint l'asso entre-temps, donc maintenant, on en discute à 11. Et après, c'est toujours un équilibre, si tu veux, sur des programmations, que ce soit une soirée dans le cours de l'année, ou que ce soit un truc comme le Summer Festival, ou n'importe. C'est toujours un équilibre entre... te faire kiffer, ce que toi tu as envie de voir, ce que tu voudrais voir, est-ce que ce qui fait kiffer les gens, ce qui est pertinent de faire à ce moment-là. Là, des fois, il faut savoir mettre son surbois de côté, déployer ses petites antennes paraboliques pour essayer d'entendre ce que les gens ne disent pas, le chakra populaire, tu vois. Bon, ça marche une fois sur deux, quoi, mais bon, quand même. Du coup, c'est ça, en fait, c'est beaucoup d'instinct aussi, c'est beaucoup d'instinct, et il faut savoir mettre ses préférences de côté. Hein, je veux dire, enfin, au bout d'un moment... Moi, j'ai fait ça à titre personnel, d'accord, hein, et je pense que c'est vrai pour mes associés. Mais j'ai fait ça pour voir les films que je voulais voir sur grand écran à la base, complètement. Est-ce que, au fil du temps, je me suis pas aussi dit qu'il fallait que je passe des films que je n'aime pas pour justifier la raison d'être de mon asso, de notre asso, complètement.
Vous avez des demandes aussi du public fidèle ?
On a des demandes, et bizarrement, d'ailleurs, public fidèle, c'est à toi que je te parle, les demandes auxquelles on a répondu au cours des années n'ont pas été les séances qui ont été les plus couronnées de succès, loin s'en faut. Les gens, quand vous demandez quelque chose, il faut venir le prendre quand on vous l'offre. Mince, on refuse pas un cadeau.
Alors, on va parler un petit peu de la programmation, donc.
Yes.
Popcorn Summer Festival qui commence ce vendredi 26. Là, c'est tout proche. Hein,
c'est beau que vous.
On commence en force hein, quand même avec un blockbuster culte pour la soirée d'ouverture hein, avec Sylvester Stallone à l'apogée du badass avec Demolition Man. Mm-hmm. Donc c'est vendredi, hein, je l'ai dit, à 20h15.
Exactement. Écoute, c'était logique. Hein. On a commencé avec Total Recall, Paul Verhoeven et George Schwarzenegger. Donc forcément, les 10 ans, tu les fêtes avec un rebond, un écho. Et quel autre meilleur candidat que Demolition Man par-dessus quoi. Demolition Man, c'est typiquement le genre de film que nous avons tous poncé en VHS, mais que tu matais limite une fois par... Ça devenait compulsif, hein, c'était pratiquement une fois par mois, une fois par semaine des fois. Mais c'est des trucs que tu pouvais le mater à l'infini, quoi. Donc s'il y a bien un truc que nous, on rêvait de revoir au cinéma, honnêtement, il est dans le top 5. Je te dis pas qu'il fait partie de mon top 5 de films préférés de tous les temps. Hein. Il fait partie du top 5 de films que j'ai le plus regardé dans ma vie. Et est-ce que j'ai le désir très brûlant de voir ce film que j'ai tant vu, que je connais par cœur, à chaque réplique, à chaque image, sur un écran de ciné ? Putain, oui. Oui, complètement quoi. Et en plus de ça, je pense que c'est un film qui est extrêmement pertinent, en fait, aujourd'hui, qui est peut-être plus encore qu'il n'était dans les années 90. Pas forcément pour les raisons auxquelles vous penserez automatiquement, cette espèce de dictat du politiquement correct et compagnie. Enfin, ça l'est, mais c'est la surface émergée de l'iceberg. Pour moi, Demolition Man fait partie de ces grands films populaires, tu sais, qui ont cette vocation d'entertainment, de divertissement, qui fait qu'ils s'excusent presque d'avoir quelque chose de plus à dire, de plus à apporter que ça, alors que c'est réellement le cas, quoi. Honnêtement, c'est le Stallone des années 90 n'a jamais fait mieux que ce film. Wesley Snipes est le plus méchant des années 90. C'est le bad guys ultime. C'est la chanson que Caris n'a jamais écrite. J'attends que Caris écrit une chanson intitulée Simon Phoenix, parce que ça doit se faire. C'est un film qui est politique, c'est un film qui rentre dedans, c'est un film qui est très pensé, qui est très malin en termes de mise en scène. En termes de production design, de moyens, t'as les meilleurs des meilleurs dans leur métier respectif qui se sont mis à pied d'œuvre sur ce film. Honnêtement, c'est le film des années 90 parfait, et même un peu plus que ça, dans ce qui vient venir t'apporter, te dire et te faire cogiter, en fait. Voilà.
Et est-ce qu'à force de le voir, tu as trouvé comment marchent les coquillages ?
Justement, et ben ça sera révélé vendredi soir. Donc moi, je suis désolé de ne pas te donner l'exclusivité à l'antenne, mais vendredi soir, Popcorn Ribbon vous dit tout sur les trois coquillages.
Juste après le 2 juillet à 20h30, Ghost in the Shell.
Ouais.
Là, c'est le film d'animation qui a changé le regard du grand public.
Ah, mais complètement. Il y a eu Akira dans les années, tout début des années 90 et Ghost in the Shell qui est venu. Enfin, Akira a lancé le bagnon, Ghost in the Shell a mis la balle au fond, quoi. Enfin, clairement, quoi. C'était un home run, ce truc. Comme tu le dis, ça a contribué largement à changer le regard des gens sur l'animation qui, on le voyait, c'était plus seulement un truc Walt Disney d'enfant. Ça a ouvert cette brèche-là. C'était à l'époque où tu avais la culture japonaise, que ce soit le manga, que ce soit le film d'animation et compagnie, qui commençait à se faire une place dans l'espace audiovisuel contemporain. C'était avant que Miyazaki vienne prendre possession des obscurs et devienne, enfin s'impose comme l'immense réalisateur qu'il est. Et Ghost in the Shell aussi, en termes disons de culturel, contre-culturel, pardon, il a posé une pierre dans le jardin de la cyberpunk, tu vois. Avant Matrix et ces trucs-là et tout, Ghost in the Shell, c'est un film qui est venu t'imposer cette mouvance cyberpunk, en fait, encore une fois, dans l'espace audiovisuel grand public, sachant que les Américains galéraient à le faire avec des séries B qui en a tous oubliés, ou presque, et souvent, tant mieux, à cette époque-là. Ghost in the Shell, c'était les lettres de noblesse de plusieurs trucs à la fois. Le film d'animation japonais, le genre cyberpunk, la culture Japon-France, etc. Et tout, tu vois. Donc ouais, obligé, obligatoire.
On a commencé avec une référence à Star Wars.
Yes.
On va retrouver aussi donc George Lucas avec American Graffiti.
Absolument.
Jeudi 9 juillet, 20h30.
Absolument, non, mais c'est American Graffiti, ça fait partie des films oubliés de George Lucas, parce que George Lucas, pour le genre, c'est Star Wars, c'est le synonyme de Star Wars, et à la limite, il n'est plus que ça. Avant, ça a été un réalisateur presque expérimental, hyper intéressant, qui a fait des choses qui étaient vraiment couillues. Il y a eu THX 1138 et American Graffiti, qui est ce film de chronique de jeunesse, dans lequel on peut déjà voir des traces de Star Wars, vu que le film aborde la pratique du cruising aux États-Unis, c'est-à-dire ce truc qui consiste à rouler très lentement dans les rues juste en écoutant la musique pour profiter du bazar. Et t'as déjà cette espèce de ballet spatial dans les voitures, en fait, tu vois. Mais c'est très bien de redécouvrir un auteur, en fait, derrière le rideau de son œuvre la plus connue, quoi. Et ça donne un aperçu de ce que George Lucas aurait pu faire en tant que réalisateur si il s'était détaché de Star Wars, ou s'il n'y avait pas eu Star Wars, ou si Star Wars n'avait pas été cette espèce de, je ne peux même plus parler de phénomène à ce niveau-là, de ce qu'il a été, quoi. Voilà, quoi.
Et c'est un film sur la fin de l'adolescence, le passage à l'âge adulte, mais il y a aussi comme fil conducteur toutes ces musiques. Wow, c'est ça qui est intéressant.
La BO
film
est culte. Et puis Lucas a quand même été toujours un businessman très avisé, parce que le gaillard, à l'époque, il avait pris, je crois, il avait négocié dans son contrat un truc pour avoir les droits de la BO. Alors, autant dire que là, le tiroir caisse, il fonctionne tous les jours, quoi, tu vois. Georges a toujours été un malin.
Juste après, ce sera Babe, le cochon devenu berger. Donc, jeudi 16 juillet, 19h30. Là, c'est le film familial par excellence. La douceur absolue.
Ah, mais complètement. En plus, il nous fallait un film. Il nous fallait quand même un film pour enfants dans la sélection. On a eu plusieurs options, mais moi, j'ai Babe. Parce que, il porte, même s'il est réalisé par Chris Noonan, il porte l'empreinte de son producteur George Miller, donc il est le réalisateur des Happy Feet, le réalisateur des Star Wars. Et comme tu le dis, Babe, c'est un film qui est d'une douceur absolue et qui est pourtant d'une cruauté totale, en fait, dans la peinture du monde animal, en fait, et de son exploitation alimentaire, mais aussi dans la peinture de la condition humaine qui te fait, en fait, à travers le monde animal. Et c'est vraiment ce truc, tu sais, où tu te dis qu'à l'époque, quand même, on avait des films pour enfants qui n'hésitait pas à être sans concession et à être très cru, en fait, dans les images qu'il te donnait aux gamins. Jurassic Park, autre genre, mais sensibilité similaire, c'est pas rien. Jurassic Park, c'est un film qui fait peur, c'est un film en plus qui hésite pas à te mettre mal, même à la fin, quoi. Je suis nostalgique de cette époque où tu pouvais faire des films pour gamins qui arrivaient à ne pas le prendre pour des petites choses en sucre, quoi, tu vois.
Et ça fait l'unanimité.
Et ça fait l'unanimité, complètement.
Et enfin, le film de clôture.
Ah bah attends.
Waterworld. Kevin Reynolds.
Ouais.
Jeudi 23 juillet, 20h45. Faut qu'on en parle un petit peu de ce choix, quand même.
Dis-moi tout.
Ah, c'est, si je dis pas de bêtises, hein, c'est considéré comme un des pires films de l'histoire. Est-ce que c'est dû aux conditions de tournage, au budget
Alors, non, c'est pas considéré comme un des pires films de l'histoire. C'est un film qui a été vu comme un désastre avant même qu'il ne sorte. C'est-à-dire que, je vais me la raconter un peu, mais j'ai eu la chance d'interviewer Kevin Reynolds, le réalisateur de Waterworld, qui est aussi le réalisateur de Robin des Bois avec Kevin Costner, qui est aussi celui de 187 Code Meurtre avec Samuel Jackson. J'ai interviewé et il m'avait dit que, ce qu'on savait déjà, Waterworld avait été crucifié avant même sa première image. La presse avait décidé qu'il fallait tuer le film, en fait. Et chaque rumeur un peu alarmante de tournage, chaque rumeur d'accident était amplifiée au quadruple tous les jours. Un tournage très compliqué est venu, en fait, cette espèce d'ouragan médiatique derrière qui a littéralement tout balayé. Et du coup, les gens avaient décidé que le film était mauvais avant même qu'il ne sorte, parce qu'en plus de ça, il fallait crucifier Kevin Costner. C'était le moment, en fait, de faire descendre l'idole de son piédestal.
Après, Danse avec les loups.
Après, voilà, c'était le moment de le tuer, en fait, voilà. C'était le moment aussi, cette espèce de tuer ces super productions un peu pharaoniques qui avaient ces ambitions pratiquement prométhéennes, en fait, de méga cinéma et tout, il fallait les tuer aussi. Et Waterworld, en fait, il s'est fait niquer pour ça. Maintenant, est-ce que le film est génial? Non. Est-ce qu'il est très jouissif? Oui, parce que derrière, t'as quand même quelqu'un qui a du métier, t'as un personnage principal qui n'est pas sympathique au début. Hein. Il n'hésite pas à être antipathique, Kevin Costner, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, quand tu joues contre, en fait, les attentes du public à ce niveau-là. Il y a des moyens, il y a du savoir-faire. C'est loin d'être aussi mal écrit, ça. Il y a une ampleur qui est quand même spectaculaire. Et encore une fois, hein, Waterworld, c'est quand même le film qui fait XXXXL, tu vois, en termes de cadre, en termes de cinématographie. Et on a toujours vu ça sans doute dans chez Jean. Ce Waterworld est un film qui est fait pour être vu au cinéma. Qu'il soit génial, pas génial, machin, c'est même pas le sujet. On l'aime tout, ce film, pour des raisons affectives. Mais il est fait pour être vu au cinéma, quoi. C'est un truc dont le scope, alors il n'est pas en scope pour le coup, mais il est en flat, mais dont le cadre doit se déployer sur le plus grand écran possible. Un monde d'eau, sans à l'infini, pas de limite, pas de frontière. C'est sur grand écran que ça se passe. C'est pas chez soi. Donc venez le voir, parce que franchement, ça va être un kiff absolument mortel.
Et après chaque projection, Guillaume, il y a aussi, alors pas de pause pizza, hein, cette fois-ci, dans le cinéma,
non,
ça se fait plus. Mais il y a toujours un moment convivial quand même après.
Voilà, qu'on appelle le verre de l'amitié, hein, qui est, qui nous est servi donc par des partenaires différents. Donc cet été, on aura donc La Racine pour Demolition Man, pour Ghost in the Shell, ce sera chez Marcel. Pour American Graffiti, ce sera le Couleur Café. Et Glamworth pour Babe, le cochon de la ville. et ça sera la capsule pour Waterworld. On les adore tous parce qu'en fait ils adorent aussi venir et participer au truc, quoi, tu vois. On a un échange avec eux qui se passe super bien depuis super longtemps, donc on est quand même assez béni avec ça. Et puis on a aussi pas mal de partenaires aussi qui viennent se greffer sur chacune des soirées, que ce soit pour offrir quelque chose, pour venir parler de leur truc et compagnie. Donc j'ai pas tous les cités parce que là franchement il y a une liste qui est très très longue et je vais m'en vouloir beaucoup si j'oublie quelqu'un, donc je préfère dire merci à tout le monde.
Mais des partenaires locaux en tout cas.
Et des partenaires locaux, toujours.
Et bah tout ça, Guillaume, c'est au Megarama d'Arras, donc du 26 juin au 23 juillet.
Voilà, sachant qu'il y aura aussi des séances au Megarama de Nain pour le Summer Festival, donc il reprend Waterworld, Ghost in the Shell, Demolition Man, dans le sens inverse de ce que je viens de dire, parfaitement logique. Et je n'ai pas les dates en tête, mais tout cela est consultable sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas, si vous voulez connaître le secret des trois coquillages pour aller aux toilettes autrement et dans une atmosphère de bien-être et d'hygiène renouvelée, venez voir Demolition Man vendredi 26. Voilà.
Guillaume Méral, président de l'association Popcorn Reborn, journaliste ciné-scénariste nerd de cinéma, pour évoquer les 10 ans de Popcorn Reborn et la programmation spéciale qui vous est proposée pour cet événement.